Et donc, nous avons un thème à voir ensemble cet après-midi, c'est donc celui-là, Israël, un signe prophétique pour notre temps, accomplissement des prophéties bibliques. Évidemment, ceci est un très très vaste sujet et on pourrait s'y arrêter pendant des heures. Mais je voudrais simplement prendre une prophétie dans le Nouveau Testament. On oublie très souvent qu'il y a dans le Nouveau Testament des prophéties sur le rétablissement d'Israël. Et là, dans le chapitre 21 de l'Évangile de Luc, nous avons une des prophéties les plus, comment dirais-je, les plus actuelles qui précisément s'est réalisée il y a exactement 50 ans, puisque l'on vient de fêter cet anniversaire, le jubilé de la réunification de Jérusalem. Et dans le chapitre 21 de l'Évangile de Luc, au verset 23, il nous est dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Je disais il y a un instant, il y a quelques jours de cela, on vient de fêter le 50e anniversaire de l'accomplissement de cette prophétie. Et il se trouve qu'il y a 50 ans de cela, je me trouvais sur place et j'ai pu assister en direct à cet événement-là. Et j'aimerais donc cet après-midi partager avec vous le témoignage qui est le mien, comment j'ai vécu ces événements et quelle est leur signification. Parce que finalement, la guerre des six jours et la réunification de Jérusalem ont été un tournant décisif dans l'histoire du monde d'une manière générale et l'histoire d'Israël en particulier. Et à partir de cette date fatidique du 7 juin 1967, Jérusalem, comme le dit aussi une autre prophétie, est devenue une pierre pesante parmi toutes les nations. Jusqu'au 7 juin 1967, personne ne s'inquiétait du sort de Jérusalem. Mais à partir du moment où Jérusalem est redevenue juive, alors ça a été pour les nations quelque chose qui a été insupportable et qui est insupportable jusqu'à ce jour. Et l'on peut dire qu'à partir de cette date, Jérusalem est véritablement devenue la pierre pesante pour toutes les nations, cette pierre sur laquelle ces dernières finiront par trébucher et par conséquent connaître aussi de cette manière-là le jugement de Dieu. Alors je voudrais donc reprendre un petit peu la chronologie des événements qui se sont produits et qui ont conduit à cette situation-là. D'abord, très très brièvement, un peu de quelques rappels. En 1948, a été proclamé l'État d'Israël. Il faut dire que, si on remonte un peu plus haut, déjà, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, qui avait soutenu les Juifs pendant la guerre, a été nommé par la Société des Nations qui venait de naître protectrice de l'État, plutôt du pays de Palestine qui a été créé à cette période. Jusqu'alors, ce que l'on appelait la Palestine était une province de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de l'Empire turc, et contrairement à une opinion généralement admise, il n'y a jamais eu d'État palestinien dans cette région-là. Et un État palestinien devait voir le jour en 1918, lorsque les Turcs ont été chassés du Moyen-Orient d'une manière générale, et où donc les Britanniques ont eu le contrôle de toute cette région-là. Et la Société des Nations avait confié à la Grande-Bretagne le mandat de faire de ce pays un État, disons un foyer national juif. On ne parlait pas encore d'un État à cette époque-là, mais on parlait d'un foyer national. Et ce foyer national, il devait s'étendre en principe sur les deux rives du Jourdain, c'est-à-dire il devait comprendre ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël, les territoires disputés et la Transjordanie, c'est-à-dire aujourd'hui le Royaume de Jordanie. En 1922, pour des raisons qu'il serait trop long de développer ici, la Grande-Bretagne a décidé arbitrairement et unilatéralement de séparer les deux rives du Jourdain. Et elle a décrété que le mandat de la Société des Nations ne vaudrait que sur la rive occidentale du Jourdain, c'est-à-dire la Cisjordanie, et la Transjordanie devenait un État arabe, un État qui prenait le nom de Émirat de Transjordanie. Donc déjà, il est intéressant de noter qu'à cette période-là, il y a eu un premier partage du pays entre un État arabe et ce qui devait être en principe un État juif. Pour toutes sortes de raisons sur lesquelles il serait trop long de s'étendre, la Grande-Bretagne n'a pas tenu ses promesses, à cause du pétrole, à cause des pressions des Arabes, etc. Et finalement, le foyer national qui avait été prévu n'a pas pu naître. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le peuple juif venait de subir la plus effroyable tragédie de toute son histoire, avec la Shoah, la destruction du judaïsme par Hitler, Israël avait impérieusement besoin d'un foyer national pour les survivants qui avaient échappé à la Shoah. Mais la situation était devenue extrêmement tendue dans ce pays et il y avait donc un conflit larvé entre les Arabes de Palestine et les Juifs de Palestine. De ce fait, les Britanniques étaient pris entre deux feux et ils ont décidé d'abandonner leur mandat et de le remettre à l'ONU. Entre-temps, l'ONU avait décidé le partage, un nouveau partage de la rive occidentale du Jourdain entre un État arabe et un État juif. Ce qui faisait que l'État juif, qui aurait dû s'étendre sur les deux rives du Jourdain, était réduit à une peau de chagrin absolument, indéfendable de toute manière. Et pourtant, les Juifs, considérant que c'était mieux que rien, ont accepté ce qui était loin de leur donner satisfaction, et les Arabes ont refusé. Ils ont annoncé que le jour où l'État d'Israël serait proclamé, les armées arabes allaient pénétrer dans ce pays pour faire un massacre de Juifs dont on se souviendrait comme ceux des Huns et des Croisés. Et de fait, lorsque l'État d'Israël a été proclamé le 14 mai 1948, 7 armées arabes ont attaqué le jeune État pour l'anéantir. Et là, un premier miracle s'est produit. Non seulement Israël n'a pas été anéanti par ses ennemis, mais il a réussi à repousser les frontières qui ont fait qu'au lendemain de la guerre, il était dans des frontières beaucoup plus acceptables que celles qu'avait prévues le plan de partage de l'ONU, que pourtant l'exécutif juif avait accepté. Et est née par conséquent, de 1948 à 1967, une situation très étrange. Le pays était coupé en deux. Et tout ce qui était la Judée-Samarie était entre les mains non plus d'un État arabe qui devait voir le jour et qui n'a jamais vu le jour, mais ça avait été annexé arbitrairement par l'Émirat de Transjordanie, qui était devenu de ce fait le royaume hachémite de Jordanie, qui s'étendait sur les deux rives du Jourdain. Les frontières d'Israël étaient énormes, et notamment étaient absolument absurdes. C'était les lignes de cessez-le-feu, tout simplement. Ce n'était pas des frontières, c'était des lignes de cessez-le-feu, des lignes d'armistice. Et dans la partie la plus étroite du pays, entre la Jordanie et la mer, il y avait 13 kilomètres seulement 13 km, c'est un quart d'heure du trajet d'un char moderne. Par conséquent, Israël se trouvait véritablement dans des frontières qui étaient absolument indéfendables. Jérusalem avait été occupée par la Légion arabe jordanienne, qui s'était emparée de la partie historique de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire de la véritable Jérusalem. La partie moderne de Jérusalem était restée entre les mains des Juifs, de telle manière que Jérusalem était coupée en deux. Elle était un peu comme Berlin l'était à cette époque-là, séparée par un mur qui la coupait en deux. Et il n'était pas rare que nous soyons réveillés la nuit par des tirs d'armes automatiques, voire des tirs de mortiers parfois, qui manifestaient un incident de frontière plus ou moins grave, qui éclatait entre Israéliens et Jordaniens dans la ville de Jérusalem. Et pour rejoindre Jérusalem, il fallait passer par une route unique qui contournait un saillant que les Israéliens n'avaient pas réussi à prendre en 1948, qui s'appelait le saillant de Latroun. Et il y avait un étroit corridor que l'on appelait le corridor de Jérusalem qui reliait la ville juive, c'est-à-dire la partie ouest de la ville, au reste du pays. Toute cette région de frontière était toujours sous tension. Et comme je l'ai dit, les incidents étaient fréquents. Mais les plus violents incidents n'avaient pas lieu le long de la frontière jordanienne, mais plutôt le long de la frontière syrienne. Et la frontière syrienne était située au nord. Et au nord du pays, il y avait la vallée du Jourdain et la vallée du lac de Tibériade. Vous pouvez voir là sur la carte, par exemple. Et de l'autre côté de ce Jourdain, il y avait des montagnes qui dominaient donc la vallée du Jourdain, ou qui était entre les mains d'Israël. Et cette chaîne de montagnes qu'on appelait la chaîne du Golan était entre les mains des Syriens. Ce plateau du Golan était pratiquement vide d'habitants. Il n'y avait que 4 villages druzes qui se trouvaient dans cette région-là, et tout le reste du plateau avait été transformé par les Syriens en un camp militaire, avec 3 lignes fortifiées à la russe, avec des fortins, des casemates enterrées et des batteries d'artillerie lourde. Et ces batteries tiraient systématiquement sur les habitants juifs qui se trouvaient de l'autre côté du Jourdain, en bas de la vallée. De telle sorte que les enfants des kibbutz ne pouvaient pas dormir dans leur lit comme tous les enfants du monde. Et tous les soirs, ils devaient descendre dans des abris fortifiés parce qu'ils étaient sûrs que le kibbutz serait bombardé. Quand des paysans voulaient sortir dans leurs champs pour les cultiver, les tracteurs étaient pris comme cible par l'artillerie syrienne, et les tracteurs étaient obligés d'être blindés. Et quand les choses allaient trop loin, l'aviation israélienne essayait de faire taire les batteries syriennes. Donc c'était une situation qui a perduré pendant 19 ans. Au sud, les choses étaient un peu différentes, parce que il y avait, on ne la voit pas sur la carte ici, mais tout à fait au sud du désert, parce que la moitié du pays d'Israël est un désert, le désert du Negev, plus de la moitié. Et c'est une espèce de triangle qui aboutit à la mer Rouge. Et là se trouve le seul port israélien qui est situé sur la mer Rouge, qui est le port d'Eilat. Le port d'Eilat donne accès à une espèce de bras de mer extrêmement étroit qui rejoint donc le gros de la mer Rouge à, disons, 200-250 km du port d'Eilat. Et là, l'entrée de ce golfe qu'on appelle le golfe d'Eilat ou le golfe d'Aqaba est contrôlée par 2 petits îlots. S'appellent les îles de Tiran et de Snapir, et qui étaient entre les mains des Égyptiens, qui longent la côte du Sinaï. Et les Égyptiens, non seulement avaient interdit à Israël aux bateaux israéliens de passer par le canal de Suez, mais ils avaient aussi interdit aux bateaux israéliens de passer par ce détroit que l'on appelait le détroit de Tyrane et par conséquent de remonter jusqu'au port d'Elat. Si bien que le port d'Elat était absolument inutile. Cela avait duré jusqu'en 1956, où avait éclaté un conflit entre l'Égypte et la France et la Grande-Bretagne au sujet du contrôle du canal de Suez, ce qu'on a appelé la guerre de Suez. Et à cette occasion-là, Israël en avait profité pour repousser la menace égyptienne et prendre le contrôle de la totalité du désert du Sinaï. Les grandes puissances, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis et l'URSS, avaient contraint Israël à se retirer du Sinaï, mais Israël avait obtenu quand même un certain nombre de contreparties après sa victoire, et notamment l'ouverture du détroit de Tyran et la sécurisation de la frontière de Gaza, d'où partaient constamment des terroristes, par le fait qu'il y avait des soldats de l'ONU, les fameux casques bleus, qui étaient interposés entre les forces égyptiennes et les forces israéliennes. Et de ce fait, de 1956 à 1967, la frontière sud, la frontière égyptienne, a été une frontière paisible. Et les bateaux israéliens ont pu passer par le détroit de Tyrane. Et c'était l'époque où Israël était l'allié privilégié de l'Iran. Ça peut nous sembler étonnant à cette époque-ci, où l'Iran est l'ennemi numéro un d'Israël, mais c'était l'époque du Shah, et par conséquent, il y avait des relations extrêmement étroites entre Israël et l'Iran, et l'essentiel du pétrole d'Israël venait d'Iran et passait par conséquent par le détroit de Tyran et le golfe d'Elat. Et Israël avait prévenu que selon le droit international, parce que le droit international prévoit que dans les détroits, il y a liberté de passage pour tout trafic commercial, quel qu'il soit, et que empêcher le trafic commercial par des détroits, par exemple les détroits des Dardanelles ou bien les détroits du Danemark, etc., devait être considéré comme un casus belli, c'est-à-dire un cas de guerre. Israël avait prévenu qu'il considérait que le détroit de Tyran était une voie donc absolument vitale pour lui, et par conséquent qu'il n'accepterait pas que ce détroit soit fermé pour aucune manière, parce que ce serait l'asphyxie en pétrole, l'asphyxie d'Israël. On était en 1966, et à la frontière nord, si les autres frontières étaient à peu près calmes, la frontière nord était toujours une frontière sur laquelle il y avait constamment, auprès de laquelle il y avait constamment des incidents. Et ces incidents faisaient des morts du côté israélien. Et à partir du début de 1967, le gouvernement israélien, qui était un gouvernement dirigé par un homme plutôt pacifique qui avait remplacé Ben Gurion, qui était M. Lévi Eshkol, avait prévenu, avait donné plusieurs avertissements aux Syriens en disant que si les Syriens continuaient à cette politique de harcèlement aux frontières d'Israël, ils finiraient par en subir des conséquences. Le 7 avril 1967, un incident majeur a eu lieu à la frontière nord. Et pour faire taire les canons syriens, l'aviation d'Israël a décollé deux Mirages, qui étaient des avions français à cette époque-là, parce qu'à l'époque, tout le matériel militaire israélien, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans l'armée de terre, était français. La France était à ce moment-là l'allié privilégié d'Israël. Et par conséquent, deux Mirages israéliens ont décollé pour faire taire les batteries syriennes. Les choses ont dégénéré et six avions syriens, des MiG-21 de fabrication russe, ont décollé pour attaquer les Mirages. Et un combat aérien a eu lieu au-dessus du lac de Tibériade, au cours duquel six MiG syriens ont été abattus par les deux Mirages. Ça a été évidemment le début d'une escalade. Et là, donc, les Russes, qui étaient les alliés privilégiés des Syriens, ont mis en garde Israël en disant que l'URSS n'accepterait pas que l'on touche à Damas, que l'on touche aux Syriens. Et conséquence de cette situation, conséquence de cet incident, Nasser, le colonel Nasser, qui était le président de l'Égypte, a conclu un pacte d'assistance militaire à la Syrie, en précisant que si la Syrie était attaquée par Israël, eh bien, l'Égypte viendrait à son secours militairement. Donc une alliance militaire qui était ainsi conclue. Or, malgré les mises en garde d'Israël, les incidents ont continué et les choses sont arrivées à un point de tension extrême à la frontière nord. Et là-dessus est arrivé le 15 mai 1967, qui était cette année-là, le 19e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et selon la coutume, il devait y avoir un important défilé militaire dans une grande ville d'Israël, tous les ans, ça changeait. Cette année-là, c'était Jérusalem. Et les accords d'armistice de 1949 entre Israël et les pays arabes stipulaient que Israël n'aurait pas le droit d'entreposer à Jérusalem des armes lourdes, des tanks, des canons, des avions, etc. Et le défilé militaire prévu pour la parade de l'indépendance avait suscité un tollé général, non seulement dans les pays arabes, mais également dans les pays occidentaux, qui accusaient Israël de violer les accords d'armistice. Israël a décidé de ne faire défiler à Jérusalem que des armes légères et des troupes à pied, si bien que nous n'avons eu droit qu'à un mini-défilé. Et malgré cela, tous les ambassadeurs des pays occidentaux ont boudé ce défilé. Il est passé pratiquement sous mes fenêtres, donc j'ai eu l'occasion de le voir. Ça a été vite fait. Et vraiment, il n'avait pas de quoi fouetter un chat. Et ce jour d'indépendance, évidemment, était un jour de joie et de liesse. Et notamment, comme tous les ans, l'après-midi du jour d'indépendance, il y avait dans le palais de la nation, Binyané Aouma, le festival de la musique israélienne. Ça veut dire que étaient exécutées à cette occasion les meilleures chansons qui avaient été composées dans l'année par des compositeurs israéliens, et la meilleure chanson était primée. Bien évidemment, je n'étais pas parmi les Happy Few qui avaient accès au Palais de la Nation, mais j'écoutais la retransmission de ce concert sur ma radio dans ma chambre. Et parmi les différentes chansons qui ont été exécutées ce jour-là, il y en a une qui m'a particulièrement impressionné. Celle qu'il avait composée était une grande poétesse israélienne qui est devenue très très célèbre par la suite, qui s'appelait Naomi Shemer. Et le titre de la chanson était le suivant, « Yerushalayim shel Zahav », ce qui signifie en hébreu « Jérusalem d'or ». Et cette chanson, quelque peu nostalgique, évoquait la situation de la ville sainte, cette situation dramatique d'une ville coupée en deux. Et la première strophe parlait d'une ville qui avait une muraille dans le cœur. Et par conséquent, qui vivait dans la tristesse, personne ne pouvait descendre sur la montagne du temple. Dans les grottes au fond des rochers, on entendait les miaulements des vents, les vents miaulaient comme des chacals. Et personne ne pouvait descendre vers la mer morte par la route de Jéricho. Mais le chant continuait avec une note d'espérance en disant « Mais un jour viendra où le temps sera celui de te chanter et de te ceindre de couronne. Ce jour-là, je me sentirai le plus petit de tes fils et le dernier de tes serviteurs. Que ton nom brûle sur mes lèvres comme le baiser de l'ange, si je t'oublie, Jérusalem, qui tout entière est d'or. » Et cette chanson, qui a évidemment reçu le premier prix, m'avait profondément impressionné. J'avais discerné presque quelque chose de prophétique au sujet de cette chanson. et je ne m'étais pas trompé, comme vous allez le voir. Et par conséquent, quand ce festival a été terminé, avait lieu le dernier bulletin d'information de la soirée. Et ce bulletin d'information nous annonçait que les chars égyptiens déferlaient dans le Sinaï et prenaient position face à Israël dans le Sinaï à la suite des tensions qu'il y avait sur la frontière nord du pays avec la Syrie. C'était le début de la crise. Dans les premiers jours qui ont suivi donc cette démonstration de force des Égyptiens dans le Sinaï, en Israël, personne ne s'est beaucoup affolé. On n'a pas pris ça trop au sérieux. On pensait que Nasser était bien conscient qu'il n'avait pas les moyens d'écraser Israël et qu'il faisait simplement une démonstration de force pour rassurer un petit peu les Syriens, etc., et que les chars qui s'étaient positionnés dans le Sinaï allaient sous peu rejoindre leur casernement. Et puis, deux jours après, le 17 mai, il y a eu un pas nouveau qui a été fait dans la crise. Nasser a demandé au secrétaire général des Nations Unies, M. Huitant, de retirer les casques bleus qui se trouvaient positionnés entre les forces israéliennes et les forces égyptiennes, parce que l'Égypte s'apprêtait à entreprendre, disait-il, des opérations militaires contre Israël, et il ne faudrait pas que les soldats de l'ONU soient pris entre deux feux. Logiquement, ces casques bleus avaient été positionnés là par le Conseil de sécurité, et en principe, seul le Conseil de sécurité était habilité pour les retirer. Or, sans consulter le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Huitant, a ordonné le retrait des casques bleus. Si bien que pour la première fois depuis 19 ans, les troupes israéliennes et les troupes syriennes dans toute la région du sud se sont trouvées face à face. Et ce qui était extrêmement inquiétant, c'est que les casques bleus qui garantissaient l'ouverture des détroits de Tiran, se trouvaient aussi, le détroit de Tiran se trouvait dégarni des forces de casques bleus, et les Égyptiens avaient donc tout loisir de fermer le détroit de Tiran. On voulait parier que Nasser n'oserait pas aller jusque-là, parce qu'il savait pertinemment bien que le jour où il fermerait le détroit de Tiran, ce serait la guerre avec Israël. Israël ne pouvait pas tolérer cette asphyxie de son économie et par conséquent avait annoncé haut et clair que la fermeture du détroit de Tiran serait considérée comme un cas de guerre. Et de fait, pendant plusieurs jours, les choses sont restées en état. Il y avait eu, dès le 17 juin, une mobilisation partielle en Israël, et je me souviens, une de mes fonctions à l'Assemblée messianique dans laquelle je me trouvais, c'était de servir de guide aussi aux visiteurs qui venaient de France en particulier. Et donc, il y avait une famille française à laquelle j'avais fait visiter Jérusalem et qui était partie vers Eilat pour le week-end. Et quand ils étaient revenus, ils m'avaient dit, « Oh, vous savez, nous avons croisé des convois de tanks qui descendent vers le sud. Là, actuellement, il y a une mobilisation partielle qui est en cours. » Et de fait, Israël était en train de procéder à cette mobilisation partielle. Et le dimanche 23 mai, alors que je sortais des cours vers midi, après une matinée de cours à l'université, puisque j'étais étudiant à l'université de Jérusalem, j'ai noté une espèce de tension qui était presque à toucher. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je voyais tous les étudiants graves, sérieux. Et il y en avait un qui était en train de lire un journal. Et j'ai regardé par-dessus son épaule le gros titre. Et le gros titre était le suivant. Nasser ferme le détroit de Tiran. Nous avions compris que là, c'était la guerre. Et c'était ce qui expliquait cette tension. Et l'après-midi de ce même jour, 23 mai, alors que nous étions en cours d'assyriologie. Lorsque le cours s'est terminé, quand nous sommes sortis du cours, il y avait des officiers qui étaient à la porte et qui avaient des listes qui appelaient mes camarades qui, avec les camions qu'ils attendaient en bas pour les emmener directement au front. Il y a certains d'entre eux que je n'ai plus jamais revus. Ça a été un des moments les plus dramatiques que j'ai vécu pendant cette guerre qui était la guerre des six jours. À partir de cette date, du 23 mai, la vie s'est pratiquement arrêtée en Israël. Les rues se sont vidées, tous les hommes et beaucoup de femmes étaient mobilisées, puisque vous savez que les femmes font aussi le service militaire en Israël. Les voitures étaient réquisitionnées, les autobus, les camions, etc. Si bien qu'il n'était pratiquement plus possible de se déplacer dans les transports en commun. Et nous nous attendions au déclenchement des hostilités d'un moment à l'autre. Le soir du 23 mai, le Premier ministre, M. Lévi-Eshkol, ou le 24, je ne me souviens plus, le lendemain, enfin, disons dans ces jours-là, a fait une déclaration à la Knesset. On était tous rivés à nos transistors. J'avais un camarade anglais qui était avec moi à l'université, qui n'était pas non plus citoyen israélien. Donc nous n'étions pas mobilisés ni l'un ni l'autre, bien que nous nous soyons engagés dans le corps des volontaires de l'étranger pour toute tâche non militaire. On nous a dit de rentrer chez nous et qu'on nous ferait signe quand on aurait besoin de nous. Nous sommes venus à la Knesset pour avoir des échos de ce qu'il y avait, pour voir un petit peu ce qui se passait. Et M. Lévi-Eshkol a fait un discours absolument lamentable dans lequel il déclarait que les États-Unis avaient demandé à Israël 2 ou 3 jours de répit avant d'engager les hostilités pour essayer de résoudre les États-Unis, essayer de résoudre la crise par la diplomatie. Et par conséquent, M. Lévi-Eshkol affirmait que le gouvernement avait décidé de donner sa chance à la diplomatie avant d'attaquer et que par conséquent, rien n'aurait lieu dans les prochains jours. Et en même temps, il s'était embrouillé dans ses notes, il avait bafouillé à la radio, ça avait fait un effet absolument lamentable. Et on était bien conscient que Lévi-Eshkol, qui était en principe en même temps Premier ministre et ministre de la Défense, n'était pas du tout à sa place là où il était. Et il y a eu là vraiment, un véritable vent de panique parce que nous étions bien conscients que c'était l'existence d'Israël même qui était en danger et que l'on risquait une nouvelle Shoah, exactement comme celle qui s'était passée à l'époque d'Hitler, parce que les Arabes ne faisaient pas mystère de leur désir d'assassiner tous les Juifs en cas de victoire arabe. Ça, nous n'avions absolument aucun doute sur le sort qui nous attendait si les Arabes étaient vainqueurs dans cette confrontation. Or, ils avaient tous les atouts entre leurs mains. Ils étaient infiniment plus nombreux à cette époque-là. Israël était un petit pays de 2 millions d'habitants seulement. Et ils étaient super armés, avec des armes modernes, tandis qu'Israël avait des armes plutôt anciennes, même si l'aviation était au top niveau grâce à l'appui de la France, et notamment au fameux Mirage français que nous avons évoqué tout à l'heure. Et c'est ainsi que les jours ont commencé à passer extrêmement lentement, et rien ne bougeait, ni sur le front diplomatique. Les 3 jours sont passés, et Israël n'attaquait toujours pas. Par contre, du côté arabe, l'hystérie montait, et notamment, il y avait de plus en plus de pays qui rejoignaient la coalition. Et c'est ainsi que le 30 mai 1967, nous avons appris que le roi Hussein de Jordanie était parti faire allégeance à Nasser au Caire et que la Jordanie, la Légion jordanienne, qui était une des meilleures armées du Moyen-Orient, était passée sous commandement direct des Égyptiens pour participer au conflit si le conflit éclatait. Ça veut dire que nous étions encerclés sur toutes nos frontières. Ajoutons à cela le Yémen, l'Irak, l'Algérie, qui envoyaient des contingents, qui envoyaient des troupes pour combattre Israël. Et les Arabes étaient absolument certains qu'ils allaient donc vaincre Israël et qu'ils allaient rayer Israël de la carte. Et un peu partout dans les capitales occidentales, on pensait plus ou moins la même chose, qu'Israël n'avait aucune chance de survivre dans cette situation-là. Donc, dès que cette alliance avec la Jordanie a été conclue, au sein du peuple d'Israël, la tension est devenue insupportable. Et les pressions ont été faites sur le gouvernement pour que Lévi Eshkol abandonne son poste de ministre de la Défense et que ce poste soit confié à un des plus prestigieux généraux de l'armée d'Israël, qui était le général Moshe Dayan, général Borgne. Lévi Eshkol avait un contentieux personnel vis-à-vis de Dayan et il a tout fait pour éviter justement que Dayan ne soit nommé ministre de la Défense. Mais finalement, devant la pression de la rue et de la presse, des autres membres du gouvernement, le 31 mai, il a fini par appeler Moshe Dayan pour qu'il soit ministre de la Défense. Et là, évidemment, le peuple d'Israël a été quelque peu rassuré. Mais il y a quelqu'un qui a compris ce que signifiait la nomination de Moshe Dayan au poste de ministre de la Défense, c'était De Gaulle. De Gaulle a compris que ça signifiait qu'Israël partait en guerre. Et De Gaulle avait décidé une politique pro-arabe. Il avait décidé de rompre l'alliance avec Israël. Et par conséquent, il a trouvé dans cette situation l'occasion de le faire. Et le 31 mai, il a décrété, dès que Dayan a été nommé ministre de la Défense, il a décrété l'embargo sur toutes les armes à destination du Moyen-Orient. Or, seul Israël possédait des armes françaises. Ça veut dire que l'embargo ne touchait que Israël. Ça veut dire qu'Israël était asphyxié, il ne pouvait plus avoir de pièces de rechange pour ses avions. Ça veut dire qu'Israël était en danger de mort. Ça a précipité la décision israélienne de partir en guerre. Et donc, le 3 juin, le cabinet restreint s'est rassemblé et a décidé donc la guerre, l'attaque d'Israël. Le 3 juin était un samedi, un Shabbat, et l'après-midi, donc, Moshe Dayan est arrivé très décontracté à la maison des journalistes à Tel Aviv, comme s'il arrivait là par hasard. Et il y avait quelques journalistes qui étaient rassemblés là. Il dit « Ah bon, vous êtes là ? Bon, bah, si vous voulez, on peut parler ensemble un peu. » Et il a fait une conférence de presse improvisée. Enfin, qui semblait improvisée. On a su par la suite que tout était calculé. Mais disons, ça semblait improvisé. Alors on lui a dit « Mais est-ce qu'Israël va partir en guerre ?» Et il a répondu « Écoutez, c'est trop tôt ou c'est trop tard ? » C'est trop tôt parce qu'il y a des tractations diplomatiques en cours et il faut attendre la fin des tractations diplomatiques pour partir en guerre. C'est trop tard parce que c'est immédiatement après le 23 mai qu'il aurait fallu partir en guerre. Les journalistes ont conclu qu'Israël ne va pas faire la guerre tout de suite. Et beaucoup de journalistes sont retournés chez eux. Même les Russes ont annoncé à Nasser qu'ils pouvaient être tranquilles, qu'Israël n'allait pas attaquer. Et pour en ajouter encore, le vendredi soir, on pouvait voir sur toutes les routes d'Israël des réservistes qui rentraient chez eux par le stop, etc. Donc Israël démobilisé. Et par conséquent, on avait l'impression que c'était la détente, la situation était en train de se détendre. Et dès qu'ils arrivaient chez eux, les réservistes avaient ordre de rejoindre leur cantonnement le plus rapidement possible et le plus discrètement possible. Le 4 juin, donc, le cabinet ministériel au grand complet s'est rassemblé avec, c'était devenu un cabinet de l'Union nationale avec l'opposition qui avait rejoint donc, la majorité. Et là, donc, Moshe Dayan a demandé un vote qui autorisait le Premier ministre et le ministre de la Défense de prendre toutes les dispositions qui leur semblaient nécessaires pour faire face à la crise. C'était, en d'autres termes, donner carte blanche au ministre de la Défense pour engager les opérations militaires. Donc, à la majorité, le cabinet a voté cette motion. Et immédiatement, M. Dagan s'est rendu au ministère de la Défense pour organiser l'attaque. Le lendemain, 5 juin, à 8h moins le quart, nous avons été réveillés par les sirènes. La défense passive nous avait averti que tout bombardement ennemi serait annoncé par des sirènes. Donc on a tout de suite compris que la guerre avait éclaté. Je me suis précipité à ma fenêtre, et depuis ma fenêtre, je pouvais voir les murailles de la vieille ville du côté jordanien. Tout était calme, pas un coup de feu, rien. Dans l'air, pas le bruit d'un seul avion, quoi que ce soit. J'ai mis la radio à 8h, donc premier bulletin d'information, qui annonçait d'une voix calme que ce matin, les troupes égyptiennes avaient fait mouvement en direction du kibbutz de Nahal Oz, non loin de la bande de Gaza, et que nos troupes s'étaient portées en avant pour les arrêter, et qu'à l'heure actuelle, de violents combats aériens avaient lieu dans ce secteur-là. Point final. C'était tout ce que la radio annonçait. Donc, on savait qu'en tout cas qu'on était en guerre. En descendant, donc, on pouvait voir des soldats qui montaient en ligne, et en chantant « Evenu Shalom Alechem »,« Nous vous apportons la paix ». En principe, était prévue ce jour-là donc une cérémonie spéciale à la Knesset où Moshe Dayan devait être investi comme ministre de la Défense. Alors, avec mon camarade David, l'anglais, nous avons décidé de monter à la Knesset pour assister ou pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait là-haut, comme nous n'avions rien à faire, et que tout était calme à Jérusalem. Nous avons donc décidé de monter là-haut. Nous avons fait du stop, puisqu'il n'y avait plus un seul autobus, et nous sommes arrivés donc à la Knesset. Là, nous avons demandé à un factionnaire ce qui allait se passer, et si Moshe Dagan devait venir. Vous n'avez pas entendu la radio? Moshe Dayan, il a autre chose à faire en ce moment que de venir ici à la Knesset parader. Donc, on est resté là. Il y avait un jardin en face de la Knesset. Nous y sommes assis en attendant les événements. Et tous les quarts d'heure, nous écoutions la radio. Et la radio ne faisait que rappeler le même bulletin d'information. Ce matin, les forces égyptiennes ont fait mouvement en direction du kibbutz de Nahal Oz, nos forces sont portées en avant pour les arrêter, de violents combats aériens sont en cours à l'heure actuelle. Finalement, nous avons décidé de rentrer, et nous avons refait du stop en sens inverse. Il était 10h30 à peu près quand nous sommes arrivés, et selon les instructions de la défense passive, il était demandé à tous les citoyens de calfeutrer les fenêtres avec du papier noir pour que, pendant la nuit, les fenêtres ne soient pas éclairées et ne servent pas de point de repère aux avions ennemis en cas de bombardement. Et donc la femme du pasteur avec lequel j'étais stagiaire, le pasteur Kaufmann, donc c'était la première assemblée messianique de Jérusalem, m'a chargé de descendre à la librairie, à la papeterie qui était en bas de la rue, pour acheter du papier noir, parce qu'elle n'en avait pas assez pour coller sur les fenêtres. Je suis sorti de la maison, je me suis dirigé vers le bas de la pente, et en même temps, ce qu'était la frontière. La frontière était juste à 150 mètres de l'endroit où je me trouvais. Il y avait ce mur de béton qui ressemblait au mur de Berlin et qui coupait la ville en deux. Je n'avais pas fait 20 pas que la fusillade a éclaté. Donc je suis rentré précipitamment. Et non seulement une fusillade d'armes légères, mais également d'armes lourdes, non seulement de mortiers, mais également de canons à longue portée, les fameux long tomes anglais qui étaient aux mains des Jordaniens. Et en l'espace de quelques secondes, de quelques minutes, la ville a été sous le feu de l'artillerie lourde jordanienne. En face de chez nous, il y avait un supermarché où les ménagères étaient en train de faire leur marché ce matin-là. Ça a été un peu la panique là-dedans. Et donc, On s'est tassé là pour essayer de mettre un peu d'ordre. Et je me souviens d'avoir parlé avec un des clients du magasin. Il me disait, il paraît que la radio israélienne aurait annoncé que nous avons déjà abattu 150 avions arabes. Écoutez, on sait bien qu'on est fort, mais quand même, il ne faut pas exagérer. 150 avions arabes depuis ce matin, c'est beaucoup quand même. Or, j'étais très en dessous de la réalité, mais ça, je ne le savais pas, personne ne le savait. Mais de fait, la radio israélienne avait annoncé que 150 avions avaient été abattus, donc notre ami avait bel et bien entendu les choses. Mais immédiatement, Moshe Dayan avait ordonné un rectificatif en disant que tout cela était faux, ce qui avait provoqué un éclat de rire chez les Arabes en disant « les Juifs ne sont même pas capables de bien mentir ». En fait, on a su plus tard exactement ce qui s'était passé, mais ça nous ne le savions pas ce matin du 5 juin. C'est que à 5 heures du matin, la totalité de la flotte aérienne israélienne avait décollé, ne laissant que 4 avions en couverture aérienne pour protéger le pays en cas d'attaque aérienne arabe. Ils avaient volé toute radio éteinte au ras de la mer pour ne pas donner l'éveil. Et là, donc, ils avaient fait un large détour pour arriver dans le couloir des avions civils. Et ils étaient arrivés à la même seconde au-dessus de tous les aérodromes égyptiens. Ils avaient commencé par larguer des bombes sur les pistes pour rendre les pistes inutilisables et empêcher les avions ennemis de décoller. Et ensuite, comme à la parade, ils avaient mitraillé les uns après les autres tous les avions qui étaient alignés sur la piste et les avaient détruits. Si bien qu'en l'espace de quelques minutes, toute l'aviation égyptienne était hors de combat, y compris les bombardiers lourds qui étaient postés à Louxor, qui avaient été bombardés par des vautours israéliens qui opéraient à la limite de leur région d'action et qui n'avaient le temps de faire qu'un seul passage pour pouvoir rentrer avec de l'essence à leur base. Donc, c'était une grande victoire. Et déjà, donc, les forces terrestres avaient engagé des combats dans le Sinaï. Et le matin, donc, dès le déclenchement des hostilités, le ministre israélien de la Défense, M. Moshe Dayan, avait fait passer un message au roi Hussein de Jordanie par l'intermédiaire du commandant des casques bleus, général Obdul, lui disant que la Jordanie ne serait pas attaquée si elle n'intervenait pas dans le conflit. Et pour toute réponse, donc à 11h moins le quart, ce matin-là, donc Hussein a ouvert le feu. Ce qui nous étonnait, c'est que malgré ce bombardement intense qui a fait 500 victimes civiles dans la partie juive de Jérusalem, les forces israéliennes ne répliquaient pas. Nous avons su par la suite que c'était l'ordre de Moshe Dayan qui avait dit peut-être que Hussein ne fait qu'un baroud d'honneur, donc il ne faut pas riposter, attendre que les choses se calment. Au fait de se calmer, bon, c'était à cette époque-là, donc il était l'heure du repas. Il y avait un poulet qui était au menu ce midi-là. Et le pasteur Kostan avait tenu à ce que nous mangions dans la salle à manger comme si de rien n'était. Mais je m'entends vous dire que le poulet, il avait du mal à passer. Et soudain, vers une heure et quelque chose, nous avons vu passer sous nos fenêtres une colonne blindée israélienne qui, à toute vitesse, descendait vers le sud de la ville, vers la gare. Et on voyait donc le commandant qui était en contact téléphonique avec le quartier général, et les soldats qui avaient le doigt sur la détente des mitrailleuses. Et quelques minutes plus tard, dans le secteur de la gare, nous avons entendu donc des combats, des échanges de coups de feu. Et la bataille a duré jusque vers 5 heures de l'après-midi. Donc une bataille extrêmement dure. Et nous avons su par la suite ce qui s'était passé, parce que la radio israélienne n'annonçait rien du tout. Ordre de Moshe Dayan, la radio israélienne ne devait pas annoncer les victoires israéliennes. Pour ne pas provoquer donc de riposte à l'ONU et qu'Israël reçoive l'ordre de rester sur ses positions. Au contraire, les Arabes annonçaient des victoires. Et Moshe Dayan dit qu'ils les annoncent, c'est très bien. Plus ils en annonceront, mieux ça vaudra pour nous. Et Israël n'annonçait rien. Seulement, nous, on était dans l'angoisse, vous comprenez. Et plus tard, on a su que donc les Jordaniens avaient attaqué une position stratégique importante qu'on appelait le palais du gouverneur, et qu'ils menaçaient de couper la ville juive en deux. Et là, évidemment, la riposte israélienne était devenue inévitable. Et par conséquent, le général Narkis, qui commandait le front central, a téléphoné au maire de Jérusalem, M. Teddy Kollek, en lui disant « Les Arabes ont vraiment envie de faire de toi le maire de la Jérusalem réunifiée ». Mais on n'en était pas encore là. Il devait encore y avoir des combats terribles avant qu'on arrive à cette extrémité-là. Et donc, le soir est arrivé. La nuit tombe assez vite encore, même à cette période de l'année, où les journées sont les plus longues. Et nous sommes descendus donc dans les abris pour passer la nuit. Et là, nous avons été bombardés toute la nuit, sans interruption. Et vers les 10 heures du soir, on a entendu arriver des avions. Et là, on a rentré un peu la tête dans les épaules. On s'est dit, est-ce que c'est les nôtres ou est-ce que c'est ceux de ceux d'en face? Et en fait, on a entendu les bombes qui tombaient de l'autre côté. On s'est dit, ça ressemble plutôt aux nôtres. Et si ce sont les nôtres, ça veut dire que les combats dans le sud, les combats aériens, se sont plutôt bien passés. Et donc, dès que les avions ont bombardé, les batteries jordaniennes ont cessé de tirer. Donc, on a eu du répit. Et ça a duré aussi longtemps que les avions sont restés sur place, puis ils ont dû rentrer pour refaire le plein d'essence, et les bombardements ont recommencé. Et ça a été comme ça toute la nuit. Vers 2h du matin, à peu près, nous avons entendu des chenilles de chars dans la ville. Là aussi, on ne savait pas trop ce qui se passait. On a su plus tard que c'était une brigade de parachutistes qui arrivait à Jérusalem. En fait, Jérusalem... Moshe Dayan avait fait pratiquement l'impasse sur le front de Jérusalem, et Jérusalem n'était défendu que par la seule brigade de Jérusalem qui était composée essentiellement de mes copains de l'université. C'était presque tous des étudiants de l'université, et il y avait à peu près 1500 hommes en tout et pour tout pour défendre la Jérusalem juive. C'était évidemment très insuffisant pour riposter aux forces jordaniennes la Légion arabe, qui était la meilleure armée du Moyen-Orient. Et donc, il fallait absolument que viennent des renforts. Et donc, il devait y avoir une brigade de parachutistes qui devait sauter sur El Arish dans le Sinaï. Et comme l'avance israélienne a été beaucoup plus rapide que prévu, finalement, on n'a pas eu besoin de cette brigade dans le sud. Et soudain, les parachutistes, on leur a dit « changement de direction, montez dans des vieux autobus ». Direction Jérusalem. Et là, évidemment, pour ces parachutistes, ça a été l'euphorie. Ils allaient libérer Jérusalem. Et pendant toute la route de Jérusalem, de El Arish jusqu'à Jérusalem, ils chantaient le fameux chant de Naomi Shemer, Yerushalayim shel Zahav. Donc c'est vers 2h du matin que les parachutistes de Motagour sont arrivés renforcer la brigade de Jérusalem. La brigade de Jérusalem, attaquée par le sud, donc le palais du gouverneur, tandis que la brigade parachutiste attaquée par le nord, les régions qui étaient la plus fortifiées, l'école de police, la colline des munitions et ce qu'on appelait la colline française. Là, il y avait les Jordaniens étaient retranchés et armés jusqu'aux dents. Et donc, Motagour, leur commandant, voulait attaquer immédiatement, mais nous, Uzi Narkis, qui était de Jérusalem et qui connaissait bien la ville, a dit « Attendez l'eau, ce sera plus, il y aura le soleil, vous y verrez plus clair, ce sera plus facile ». Donc il a fallu attendre l'aube, vers, disons, 6 heures du matin, pour que donc se déclenche l'attaque. Et là, on a entendu effectivement, dans le nord, une fusillade qui se rapprochait de nous, et ça, c'était extrêmement angoissant, parce que on avait l'impression que c'était l'ennemi qui avançait. En fait, c'était tout simplement parce que le front se déplaçait. Mais ça, évidemment, nous ne le savions pas. Et donc... La bataille, on suivait la bataille minute par minute. Vous pensez bien que cette nuit-là a été une nuit blanche. Et à 6 heures du matin, donc, nous avons mis la radio, le premier bulletin d'information. Et là, enfin, la radio israélienne a annoncé les victoires. D'abord, la destruction des aviations arabes. C'était plus de 300 avions arabes qui avaient été détruits la veille. Et là, on a compris que la victoire était remportée parce que sans aviation, il est évident que l'ennemi ne pouvait strictement rien faire. Et que les troupes israéliennes étaient profondément enfoncées dans le Sinaï, et les choses marchaient plutôt bien. Elles annonçaient aussi les combats à Jérusalem, et annonçaient qu'actuellement, les parachutistes étaient aux prises avec la Légion jordanienne. Les combats ont été très durs à Jérusalem, sont été les plus durs pratiquement de toute la guerre. Mais disons, à la fin de la matinée du 6 juin, les points fortifiés jordaniens étaient tombés les uns après les autres, et les forces israéliennes étaient arrivées pratiquement sous les murailles de la vieille ville, le musée Rockefeller, et essayaient de faire leur jonction avec l'école de police qui se trouvait sur le mont Scopus, c'est-à-dire du mont des Oliviers, de l'autre côté de la ville. Il y avait donc des combats très importants qui avaient lieu et qui ont eu lieu toute la journée, qui se sont donc... La manœuvre israélienne était une manœuvre tout à fait classique, ça veut dire une prise en tenaille, donc une tenaille nord donc, avec la brigade de parachutistes et la tenaille sud avec la brigade de Jérusalem, qui devait se refermer sur le mont des Oliviers et encercler la vieille ville. Il a fallu donc encore une journée entière de combat pour que cette manœuvre puisse aboutir à son terme. Et le soir, donc, la fusillade, la canonnade en tout cas, s'était un petit peu calmée. Nous sommes montés sur la terrasse dont nous pouvions voir la vieille ville. Et là, c'était un spectacle absolument incroyable. La vieille ville, les murailles de la vieille ville avaient été éclairées par des projecteurs d'aviation qui faisaient qu'on les voyait comme en plein jour. Et on voyait les échanges de balles traçantes, c'est comme une espèce de feu d'artifice qui s'échangeait au-dessus des murailles. Et puis on voyait le mont des Oliviers qui brûlait. Il avait été bombardé au napalm par l'aviation israélienne. Et à la lueur de l'incendie, on voyait les soldats israéliens qui montaient à l'assaut. Le mont des Oliviers qui brûlait, ça faisait une drôle d'impression. Quand on sait, on connaît les prophéties bibliques qui annoncent le retour de Jésus sur le mont des Oliviers, on s'y attendait d'un moment à l'autre, vous savez, à ce moment-là. Et on est resté là tout un temps, comme fasciné par ce spectacle. Puis finalement, on est redescendu dans les abris, on a passé une deuxième nuit dans les abris. Et le lendemain matin, 7 juin, donc on est remonté sur la terrasse. Là, la bataille pour le mont des Oliviers n'était pas finie. Il y avait eu même une tentative de contre-attaque pendant la nuit de la part des Jordaniens qui montaient depuis Jéricho et qui ont été anéantis par l'aviation israélienne. Et là, l'aviation israélienne continuait à bombarder le mont des Oliviers. Et on voyait les avions qui piquaient, qui plongeaient, qui revenaient, etc. Et puis donc, les heures passaient. Et donc j'étais assis dans le salon, attendant des nouvelles. Et soudain, un soldat a frappé à la fenêtre et a annoncé ceci. « Arabaï Beyadenu », ça veut dire « la montagne du Temple est entre nos mains ». Et là, donc, on a entendu tout ce que vous savez, enfin, tout ce que tout le monde a entendu dans le monde entier. Le rabbin Goren qui sonnait le chauffard au pied du kotel où les parachutistes étaient arrivés, etc. Le Moshe Dayan, l'état-major qui arrivait, et Moshe Dayan qui prononçait ces paroles « Nous sommes revenus dans ce lieu pour ne plus jamais nous en séparer ». Et bon, nous étions à 150 mètres de la frontière. Par conséquent, il nous était interdit de sortir encore des abris. Les autres habitants de Jérusalem pouvaient sortir des abris, mais nous qui étions proches, on a dû rester enfermés encore dans les abris jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Et seulement à 15 heures de l'après-midi, on a été autorisé à sortir. C'était une atmosphère vraiment style, vous savez, libération de Paris, telle qu'on l'imagine dans les chroniques de l'époque. Les chars pris à l'ennemi défilaient avec des drapeaux jordaniens, des portraits de Hussein, de Nasser qui avait été pris, les prisonniers dans des camions, les yeux bandés, etc., qu'on emmenait dans le stade où des copains à moi les gardaient, je ne savais pas que faire d'eux en attendant. Enfin bref, les gens se congratulaient, s'embrassaient, les rues étaient noires de monde, on annonçait les victoires, on voyait les avions qui bombardaient Bethléem, les avions israéliens qui bombardaient Bethléem, qui repassaient au-dessus de nous en nous saluant en battant des ailes. Bref, tout le monde se rendait vers les bureaux de poste pour rassurer la famille qui était à l'étranger. Et donc, en arrivant dans le bureau de poste, je suis tombé sur mon professeur d'assyriologie. On est tombé dans les bras l'un de l'autre, on s'est embrassé, on s'est congratulé. Et puis, on a envoyé les télégrammes, donc, comme il se devait. C'était un mercredi, et le mercredi était le jour de la réunion de prière à l'Assemblée messianique. C'était encore le blackout, parce que les combats continuaient, il y avait encore des tireurs isolés à Jérusalem, et puis, bien sûr, dans le Sinaï, la guerre continuait encore. La plupart des membres de l'Assemblée étaient mobilisés. Donc nous sommes retrouvés une poignée dans le salon du pasteur. Nous avons surtout écouté les nouvelles. Nous avons lu le texte là, de la réunification de Jérusalem. Et nous sentions que nous vivions des moments historiques et prophétiques où cette prophétie était bel et bien en train de se réaliser. Et donc les nouvelles étaient quelque chose d'absolument époustouflant. On nous annonçait que des villes comme Bethléem, Hébron, Sichem, Jénin, Jéricho tombaient les unes après les autres. Et que finalement, dans la soirée, on nous annonçait que Hussein demandait l'armistice. Donc sur le front central, la guerre était terminée. Il a fallu attendre encore une journée pour que les troupes israéliennes atteignent le canal de Suez sur le front sud. Et là aussi, Nasser a demandé l'armistice. Restait le nord. Il a fallu encore attendre 2 jours pour que le plateau du Golan tombe entre les mains d'Israël et que ce soit la fin de la guerre, lorsque les Soviétiques ont enjoint aux troupes israéliennes d'abandonner Damas, mais déjà les avant-gardes israéliennes entraient dans Damas. Quand le cessez-le-feu a été imposé, on peut dire, par l'URSS, qui a menacé évidemment d'intervenir dans le conflit si Israël ne se retirait pas de Damas. Donc Israël s'est retiré jusqu'à Kounetra, donc disons sécurisant le plateau du Golan et faisant en sorte que toute la vallée du Jourdain cesse d'être bombardée, comme on l'a vu tout à l'heure en commençant. Et c'est ainsi que le soir du Shabbat de ce 11 mai 1967, eh bien, la guerre, qu'on a appelée plus tard la guerre des 6 jours, était terminée. Israël se trouvait dans une situation qu'il n'avait jamais osé rêver, alors qu'on désespérait presque de la survivance d'Israël. Eh bien, c'était Israël qui, miraculeusement, avait triomphé de ses ennemis. Mais évidemment, tout le monde, enfin disons tous ceux qui réfléchissaient un peu, étaient conscients qu'il y avait là quelque chose de véritablement miraculeux. Donc c'était vraiment l'accomplissement partiel, en tout cas, de la prophétie de Luc 21-24. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Néanmoins, il y a quelque chose qui reste encore et qui n'est pas accompli. C'est que le mont du Temple n'est pas sous la souveraineté d'Israël. Alors que le drapeau israélien flottait au sommet du dôme de la Roche, une des 2 mosquées qui se trouve sur l'emplacement du temple, Moshe Dayan a fait descendre ce drapeau et a remis les clés des mosquées au Waqf, c'est-à-dire au comité musulman qui contrôlait donc ces endroits-là. Si bien que jusqu'à ce jour, on peut dire que le mont du temple est une sorte d'enclave extraterritoriale à l'intérieur du territoire d'Israël. Et par conséquent, Israël, on peut dire le lieu le plus saint d'Israël, est encore foulé aux pieds par les nations. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et maintenant, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas passé depuis ce temps-là une seule année sans que l'Organisation des Nations Unies enjoigne à Israël d'abandonner Jérusalem. Or, les Israéliens ont dit « Nous sommes revenus dans ce lieu pour ne plus jamais nous en séparer. » Donc nous sommes ici dans une situation de conflit entre l'État d'Israël et les nations. Ce conflit qui est annoncé dans les prophéties de Zacharie en particulier, où Jérusalem, comme je disais tout à l'heure, est devenue une pierre pesante pour toutes les nations. Cette Jérusalem dont personne ne se préoccupait, aussi longtemps qu'elle était contrôlée par des nations étrangères, quand elle était foulée aux pieds par les nations, à partir du moment où elle est redevenue juive, est redevenue à la une de l'actualité. Et elle l'est restée jusqu'à aujourd'hui. Et les choses donc sont dans cette situation. Qui peut faire en sorte, comme j'ai toujours, je le dis à ceux qui visitent Jérusalem avec moi, quand je leur montre donc l'esplanade du temple, du sommet du mont des Oliviers, je dis, voyez cet endroit, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Et une seule étincelle à cet endroit-là, et le monde entier explose. Et là, donc, nous sommes dans cette situation, dans l'attente, malheureusement, de cette explosion, qui, selon les prophéties, éclatera au dernier jour et se terminera, heureusement, par le retour de Jésus sur le mont des Oliviers, justement, dans les conditions-là. Et finalement, là, 50 ans après, eh bien, nous sommes toujours dans cette attente-là, mais une attente, évidemment, qui ne peut plus durer très longtemps et qui prendra fin avec le retour de Jésus dans les conditions qui ont été annoncées par les anges. Il reviendra de la même manière que celle qu'il est monté. Il reviendra sur les nuées du ciel pour établir son trône à Jérusalem et régner sur la maison de David éternellement, comme l'avait annoncé l'ange à Marie sa mère au moment de sa conception. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie de notre réflexion de cet après-midi.
Peut-être juste avant de faire une pause, peut-être des questions sans aller dans les débats, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses, mais peut-être des questions de compréhension ou de précision par rapport à ce qui a été dit. Voilà, sans aller au-delà, est-ce qu'il y a des questions de certains? Oui. Parlez bien fort parce qu'il y a des personnes là.
D'accord. C'est juste que le terme sainte, Jérusalem, ville sainte.
Pardon?
Jérusalem, ville sainte. Et c'est quoi la question?
Il y a deux doctrines. Il y a un qui dit que sainte, oui, dans le sens où c'est vraiment pour le Seigneur. Et l'autre, c'est Jérusalem, c'est juste une ville.
C'est quoi, c'est?
C'est juste une ville historique où, effectivement, il y a eu une histoire.
Alors, si on prend le sens, le mot saint, dans son sens étymologique, saint, ça veut dire mis à part, choisi. Et dans ce sens-là, effectivement, Jérusalem est une ville mise à part, est une ville choisie par Dieu, une ville unique, dans laquelle Dieu a décidé de faire résider son nom. Et par conséquent, on est habilité, à mon sens, de parler effectivement de ville sainte.
C'est pas une ville où des gens sont parfaits.
Comme on a l'habitude de le dire là-bas, la ville est sainte, mais pas les habitants.
Est-ce qu'il y a une autre question de compréhension, de précision? Oui.
J'aurais demandé pour... quand Moshe Dayan redonne les clés du temple, oui. Des mosquées, oui. En quelque sorte, ça s'est partiellement rempli, le temple des nations.
Oui.
Aujourd'hui, le monde du temple n'est pas entre les mains de Jérusalem, mais c'était pour que Dieu, en fait, sanctifie le temps.
C'était pas tout à fait le temps.
C'est pour laisser encore du temps. On sent qu'on est dans les derniers temps,
depuis
cette époque-là. Mais vraiment, l'accomplissement de ce texte sera vraiment comme le Seigneur reviendra à ce moment-là.
C'est sûr.
Bon, ça peut lancer du temps pour l'humanité, quoi.
Tout à fait.
Ouais, c'est un acte prophétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qui vient d'être exposé? De précision, de compréhension. Donc, ce que j'ai compris, c'est que cette guerre, en fait, tu l'as vécue directement. Quoi.
Ah bah oui.
Sans passer par les médias que nous, on avait. Mais toi, tu l'as vécue sur place.
Sur place, oui.
Voilà. Ce qui donne encore plus de crédit au témoignage. Est-ce que par là, il y a des questions? Ceci, n'hésitez pas. Oui.
Non, en fait, c'est pas que c'est une question. Je veux juste savoir, en fait, si je veux vous le réécouter, cette histoire-là, je peux... Pour avoir... Là, c'était pas évident de tout noter, Si je veux me réimprégner tout ça...
Il y a même des films de ces bombardements, etc. On avait fait un week-end sur Israël... Il y a quelque temps, on peut retrouver tous ces films. Donc,
et vous êtes fait l'enregistrement, en fait.
Voilà, donc tu peux vivre...
Ce que j'ai dit là, c'est enregistré.
Voilà. Déjà, c'est enregistré. Et puis il y a des films aussi sur la guerre des six jours. Ça a été filmé et on voit les avions qui sont détruits et tout ça.
Juste une question. Moshe Dayan, c'était quand même un très fin stratège.
Oui.
Et son rôle a été vraiment le pivot de cette guerre.
Il a été un des artisans importants de cette guerre, c'est vrai. Oui.
Mais alors, nous, on a entendu des histoires comme quoi il y avait des avions qui aidaient Israël. Enfin, il y a eu beaucoup, on a entendu beaucoup de choses sur la guerre des Israéliens.
Alors, justement,
je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Les Israéliens ont capté une conversation téléphonique entre Hussein et Nasser qui se mettaient d'accord l'un comme l'autre pour dire qu'Israël avait été aidé par des avions, des porte-avions américains et anglais. Et ce n'était pas vrai, bien évidemment. Et donc, Israël a capté cette conversation-là et l'a diffusée. L'a diffusée sur toutes les ondes. Si bien que ça a été un éclat de rire généralisé et donc la supercherie n'a pas pris.
Pas parce qu'il fallait qu'il rassure les Arabes, quoi.
Il fallait, oui, bien sûr.
Est-ce que la Jordanie est toujours aussi hostile qu'elle était ?
Alors Israël, non, la Jordanie, il y a eu un traité de paix qui a été signé après le traité de paix qui a été signé avec l'Égypte. Néanmoins, actuellement, la Jordanie, c'est un point extrêmement chaud parce que beaucoup de réfugiés sont arrivés de Syrie et d'Irak. Parmi eux, donc, des terroristes du Daesh, etc. Et le roi Abdallah est sur un siège éjectable. Et là, actuellement, la situation en Jordanie est très chaude. Et si, effectivement, Daesh arrivait en Jordanie, ce serait très embêtant pour Israël.
La Jordanie, c'est plus ou moins Moab, non ?
Oui. Moab, Ammon.
Je voudrais dire qu'à l'époque, j'étais dans l'armée. Et beaucoup auraient voulu partir en Israël pour tirer sur les Arabes.
Eh oui. Eh oui.
L'armée française ?
Oui.
Eh oui, c'est vrai.
Beaucoup de mes camarades étaient prêts à partir.
Eh oui.
Mais ça leur a été interdit, mais ils étaient prêts.
Eh oui. De toute façon, ils n'auraient pas eu le temps d'arriver.
Non, mais c'est vrai. J'étais dans l'armée à l'époque.
On le sait, c'est connu. C'est connu. Et plusieurs, l'embargo a même été plus ou moins violé clandestinement pour pouvoir alimenter Israël par les Français.
Juste poser une question, parce que...
Plus fort, parce que...
Du fait que on voit les prophéties qui s'accomplissent, quelle est la vue des Israéliens eux-mêmes vis-à-vis des prophéties qu'on voit, Israël qui revient dans le pays, et par rapport au messianique, qui évangélise, est-ce que c'est plus facile d'évangéliser enfin...
Ça dépend de qui. Vous savez, vous avez Israël, c'est une société très, très variée, très disparate. Vous avez des gens qui sont croyants, qui sont religieux, et qui voient effectivement dans ces événements, sur ces événements-là, comme nous le voyons nous-mêmes, l'accomplissement des prophéties. Vous en avez d'autres pour lesquelles, qui eux sont détachés de toute croyance religieuse, pour lesquelles c'est la force de Tsahal qui a triomphé, etc. quoi, hein. Donc vous avez toutes les opinions possibles dans ce domaine-là. Quoi.
Vous avez dit que les Israélites ont dit qu'ils ne bougeraient plus de...
Oui, ça a un consensus là-dessus.
C'est un consensus là-dessus. Oui, consensus. Donc l'ONU peut dire ce qu'elle veut.
Oui.
Il reste.
Ambassade Jérusalem, c'est.
Voilà. Oui, et pourquoi Jacques Attali, qui est juif, il dit qu'un jour.
Pourquoi
Jacques Attali, qui est juif, qui est français, là,
oui.
qui conseille tout le monde président, il dit que Jérusalem sera une ville internationale pour le gouvernement.
Bon, parce qu'il est bête. Et que. et que. C'est un juif assimilé, un juif honteux, etc. quoi.
Donc il y a plusieurs juifs, plusieurs types de juifs.
Oui, bien sûr.
Est-ce que cette expérience-là vous a changé votre vie pour toujours ?
Ah, bah oui, bah évidemment.
Oui.
Évidemment.
Et vous êtes devenu.
J'étais déjà pro-israélien à cette époque-là. La preuve, c'est que je m'étais engagé dans les volontaires de l'étranger. Bon, ça a été tellement vite que j'ai rien fait, quoi. Mais voilà, quoi.
Est-ce que les Israéliens sont de plus en plus religieux ?
Oui, il y a un mouvement de retour. Il y a un mouvement de retour à la... Oui, on appelle Hazra Betshuva, oui, oui, il y a un mouvement dans ce domaine-là, relativement important.
Et le retour de Jésus, vous avez...
Ah.
On en parlera demain.
Les infos.
Là, personne ne sait ni jour ni heure. Donc là, on ne peut rien dire du tout dans ce domaine. Rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est dans les temps.
Amen.
Mais ce qui est terrible, ce qui est merveilleux et formidable, c'est Ézéchiel qui donne les noms des peuples qui iront contre Israël, et parmi les peuples, il y a la Russie.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Et l'Iran.
Ah oui.
Donc la Perse.
Ah oui, bien sûr.
Mais si l'Iran du Shah était pro-israélien, il doit rester actuellement en Iran des gens qui ne sont pas contre.
C'est possible, mais vous savez, il y a une telle chape de plomb sur l'Iran à l'heure actuelle que ce qui se passe vraiment là-bas, c'est difficile de dire.
Parce qu'on a eu un des missionnaires iraniens qui sont passés dans l'église et qui disaient qu'ils avaient énormément de respect et ils considéraient que Esther était leur reine.
Ouais.
Il y avait le tombeau d'Esther, je crois, en Iran.
Oui, c'est possible.
Et en Perse, parce qu'ils considèrent que c'était leur reine et ils l'ont vraiment adoptée, quoi. Donc ils avaient quand même des points communs. Bon, enfin, c'est des gens qui étaient musulmans et qui se sont convertis. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais. Qui parlent comme ça.
Ouais. Ouais. Ouais.